président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. La race. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Et s'ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. La race. Bah, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La race. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la gloire pour de la preuve. La race, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'à ma riba. J'étais blessé chez mon voisin. La race. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La race, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La race. La race.
La race. Chers auditeurs de La Rage Dedans, cette semaine, nous allons parler, devinez, de Vincent Bolloré. Je sais. C'est une marotte chez moi, Vincent Bolloré, mais aujourd'hui, nous parlons d'un projet, et pas n'importe lequel, qui s'appelle Déborder Bolloré, qui a débuté le 6 juin en librairie, et qui concerne les maisons d'édition indépendantes. Donc, je vous avais parlé à l'époque de l'appel des libraires contre Bolloré, et là, c'est les maisons d'édition indépendantes qui ont fait un projet qui a pour titre Déborder Bolloré, qui est sorti le 6 juin en librairie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Clara Pancotte. Clara, bonjour.
Bonjour.
Et Arnaud Prossard. Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez présenter la genèse de ce projet et comment les maisons indépendantes ont décidé de se liguer contre Bolloré. Le pauvre Bolloré. Le pauvre Vincent. Clara, peut-être
Alors, pour une présentation... succincte avant de rentrer dans les détails.
Tout à fait.
C'est un projet qui a été qui est né en novembre de l'année dernière et donc qui a été conçu et fabriqué très très rapidement puisque du coup il s'est passé seulement 6 mois entre l'idée et la parution du livre. Et donc c'est au départ 5 éditeurs, éditrices qui se sont rassemblés à Offprint et qui ont commencé à parler d'une possible initiative des éditeuristes qui, parfois, arrivent un peu après coup dans les débats politiques, comme des témoins, en fait, de ce qui se passe. Et donc là, l'idée, c'était plutôt de s'insérer dans la campagne des armées Bolloré.
Tout à fait.
Et de participer activement avec une production au même moment en fait que la campagne qui était prévue pour mai de cette année.
Et qui a démarré le 24 mai.
Voilà.
Par une flottille qui est partie de Concarneau pour cerner l'île privée de Bolloré.
Tout à fait.
Et par des tables rondes à côté de Quimper. Toutes les tables rondes ont été filmées et sont libre accès sur la chaîne YouTube de David Dufresne au Poste, pour ceux qui auraient raté l'événement.
Oui, on peut juste préciser que ça s'est passé chez Divergence, qui est une des maisons d'édition signataires du projet Déborder Bolloré, et qui a une librairie et un espace de réflexion à Quimperlé, en Bretagne.
Tout à fait. Alors, je vais lire le texte qui accompagne la présentation du livre et du projet. Dans le contexte de la campagne des armées Bolloré et en emboîtant le pas au boycott appelé par les librairies antifascistes, nous, éditrices indépendantes, coéditons collectivement ce livre pour prendre part depuis notre secteur à la réflexion générale sur le démantèlement de l'Empire Bolloré. Les contributions mettant en avant la pensée de chercheuses, d'imprimeurs, d'éditrices et de libraires qui analysent et ou subissent les dynamiques de concentration et d'extrême droitisation du marché. Chacun, chacune, tentait de formuler depuis sa position respective des réponses à cette question urgente, comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre. Parce qu'en fait, le titre du livre, c'est « Déborder Bolloré » et c'est très précisément « Faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre », le sous-titre du projet. Et le site internet, c'est déborderbolloré.org. Et le livre, quand je l'ai eu dans les mains, j'ai souri parce que il y a des fourmis. C'est un travail de fourmis que vous avez. D'ailleurs, une des autrices des entretiens parle de travail de fourmis. C'est un travail de fourmis auquel s'est attelé votre collectif. Arnaud ?
Oui, ça. Ben, ce qui est important de souligner, c'est que c'est un livre qui agrège et qui réunit plusieurs acteurs des métiers du livre, ce qui est, je trouve, assez rare, parce que souvent, chacun parle de sa position, et là, le collectif a réussi à organiser autour d'éditoristes, de libraires, d'imprimeurs, et aussi de chercheurs. Et ça, c'est vraiment...
Inédit,
ou en tout cas, je trouve que c'est dans ce laps de temps, c'est vraiment une réussite, parce qu'on a réussi à agréger un nombre de textes, un nombre de réflexions autour de cette idée de déborder Bolloré qui était une gageure pour sortir le livre en temps et en heure.
Alors, un éditeur indépendant, qu'est-ce que c'est ? Ça, il y a un auteur qui l'a très bien défini dans le texte, mais ce sont des éditeurs principalement indépendants qui font partie du collectif.
C'était le but en tout cas. Je pense que, enfin, Arnaud, tu pourras donner ta version si tu veux. Après, moi, pour moi, être éditrice indépendante, en tout cas, c'est pouvoir publier ce que je veux quand je veux, selon les moyens que j'ai.
De colporteur, comme voilà. Tu l'expliques dans ton
mais sans,
texte.
Sans dépendre, on va dire, de quelqu'un qui va me dire ce que j'ai le droit ou pas de publier. Et aussi de pas vouloir forcément s'adresser à une audience de milliers et de milliers de personnes. Enfin, en avoir conscience, en tout cas, quand on publie des livres. C'est-à-dire que, en tant qu'éditrice indépendante, je crois que ce qui fait partie de mon activité, c'est aussi de savoir à qui je m'adresse avec les livres que je publie. Enfin, à qui, pas personnellement, mais en tout cas avoir une idée de qui j'ai envie de donner accès à des textes, quoi.
Arnaud ?
C'est vrai que le concept d'éditeur indépendant, il est bien pratique pour une chose générale, mais chaque éditeur, et même dans le collectif, a une position bien particulière dans le métier du livre. Parce que à partir de quand commence l'indépendance, c'est une question qu'on se pose tous. Et cette question d'indépendance, elle a un large spectre, en fait. Clara, j'ai l'impression que peut-être que ce qui nous définit plus que de l'indépendance, c'est peut-être une certaine liberté dans nos choix éditoriaux.
Oui, je suis d'accord.
Mais
parce qu'en fait, je pense que c'est aussi important de préciser que indépendant, éditeur ou éditrice indépendante, ça ne veut pas dire politiquement engagé à gauche. Et que, en fait, on s'est aussi retrouvé confronté à cette question lorsqu'on a fait des appels, en fait, à signataires, d'être rejoint et de devoir aussi enquêter, entre guillemets, sur les maisons d'édition qui décidaient de co-signer le projet et de se rendre compte que parfois, en fait, c'était pas possible par rapport à la ligne éditoriale du recueil.
Parce qu'en fait, le but de déborder Bolloré, c'est de dépasser la figure de Bolloré pour porter l'attention sur ce qui le rend possible. Et ça, c'est très important. Vous le dites très bien dans la première partie du livre, qui est à la fois des articles et des entretiens. Mais on va y revenir dans la deuxième partie.
Mais je crois que cette idée de déborder Bolloré, en fait, en tout cas, moi, les premiers contacts qu'on a eus avec le collectif de départ du projet, c'était de dire, en tout cas pour ma part, pour la Grange Batelière et ancien imprimeur, c'est de dire s'il s'agit seulement de taper sur Bolloré, moi, je voyais pas bien quel intérêt je pouvais avoir dans l'affaire. Mais l'idée, et ce qui est réalisé, c'est de dire comment on peut faire, comment on peut garder notre autonomie, comment peut-être donner des outils par notre expérience pour survivre dans ce monde qui va de plus en plus se resserrer autour de d'une hégémonie culturelle autour de et d'avoir des voix dissonantes et justement pas que des éditeurs mais avoir aussi des libraires parce que c'est important aussi pour la diffusion de dire quand on est libraire qu'est-ce qu'on fait contre ça ou qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre des maisons à côté de ça. Eh bien, c'était vraiment cette idée de déborder Bolloré. Je pense que c'est déborder, c'est comment survivre dans ce monde qui va être de plus en plus dur pour l'indépendance.
Oui, puis je pense que dans la question de déborder, il y a aussi, comme ce que tu dis, de réunir autant d'acteurs et d'actrices différentes. C'est aussi l'idée de en fait, pouvoir... Toi, tu parlais de travail de fourmi, mais en fait, ça... Enfin, pour moi, c'est aussi l'idée, on en parlait avec Théo l'autre jour, des gouttes qui vont faire déborder le vase un peu. Donc, plus on est, plus on va pouvoir aussi apporter des points de vue différents. Et c'est ce qu'on explique aussi dans le livre, c'est que c'est un peu en soulignant aussi nos particularités à chacun et chacune qu'on va réussir à créer un réseau qui puisse toucher beaucoup plus de gens que juste avec nos maisons d'édition parfois qui ont des très petites échelles, quoi.
Théo étant un des coordinateurs du projet.
Pour Théo Pal, oui, qui est éditeur chez Burnout.
Voilà. Alors, le chapitre 1 a pour titre « Le livre, cette marchandise ». Le livre, c'est une marchandise, mais pas une marchandise comme les autres. Et ça, il l'explique très bien, l'auteur, on revient sur des termes bien précis, comme l'activité des éditions de livres, l'éditeur, un catalogue, une ligne éditoriale, la maquette du livre, l'imprimeur, le diffuseur, le distributeur, le libraire, tout ce qui fait la chaîne du livre, et surtout sur la loi Lang de 1981. Et ça, ceux qui s'occupent de librairie, comme ça nous arrive en tant que membres de la Fédération anarchiste, nous avons une librairie autogérée, Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, nous connaissons cette loi et cette chaîne du livre. Donc, ce qui est de bien dans tous ces chapitres, c'est que vous montrez la spécificité du livre et vous montrez à quel point la concentration dans les mains de quelques multinationales et de multimillionnaires très conservateurs, pour ne pas dire d'extrême droite, nous met en danger, mais un danger comme on n'imagine pas.
Bah, peut-être Arnaud, toi tu travailles en librairie, donc.
Oui, on a du mal à. Enfin,
on touche du doigt.
J'ai toujours du mal avec les scénarios catastrophiques, mais il est sûr que en fait, l'édition, comme en fait, ce premier article, il a l'intérêt de résumer un petit peu les arcanes du process de fabrication d'un livre et de vente et de réunir tous les enfin de réunir acteurs. Ce qu'on appelle la chaîne du livre, quoi, d'expliquer la chaîne du livre. Ce que je pourrais dire sur ce danger, c'est que jusqu'à quelques années, il était bon temps d'être de gauche, ou en tout cas d'être dans une sorte de sphère social-démocrate, c'était de bon temps. Et là, on sent, moi, et j'avais l'impression, moi j'ai une cinquantaine d'années, j'ai l'impression qu'on allait vivre ça dans cette sorte de d'entre-deux eaux, où de toute manière, l'idée démocratique allait tous nous sauver. Là, on sent que le vent est en train de tourner.
Méchamment même.
Que ce bon temps n'est plus d'actualité et que ce qui protégeait un peu ce qui protégeait les idées progressistes et libertaires, pour être sûr.
Oui.
Maintenant, elles sont plus protégées par le vent, par l'ambiance actuelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment un véritable changement et peut-être un danger, ouais. Ouais.
Tout à fait.
J'ai répondu. Ah,
tu as parfaitement répondu. Alors, on va parler très précisément du chapitre 2. Qui était très bien fait, achète un empire vieux de 2 siècles. Parce qu'on n'imagine pas le tournant qu'a été l'acquisition par Bolloré d'Hachette. Revenir sur la construction de l'empire Hachette, c'était primordial. Et comprendre que cet empire est tombé dans l'escarcelle de Bolloré et que ça a été le début, et c'est le début de ce pourquoi il y a débordé Bolloré et on doit se réveiller, parce qu'il est minuit moins une. Je veux dire, ce chapitre a été absolument parfait. Donc, on se rend compte que même Émile Zola a travaillé pour Hachette. Donc, ça, je l'ignorais. Donc, bon, pour ceux qui travaillent dans les librairies, il y a des distributeurs comme Sodis. Bon, les maisons d'édition de Gallimard, les noms comme Relais. On croise les fantômes de Jacques Savandelmas et de Mitterrand, ceux des NNPP, les nouvelles messageries de presse parisienne, et surtout Lagardère. Donc, 41% des actions sont rachetées de Lagardère, Vivendi rentre dans le capital de Lagardère, c'est la chute de Lagardère quelque part, mais c'est le début de nos ennuis à tous collectivement. Est-ce que Clara, non, Arnaud peut-être, tu veux revenir sur cette saga?
Je pense que ce qui est peut-être important de savoir aujourd'hui, c'est que depuis que Hachette appartient à Bolloré, en fait, je pense que les personnes qui sont pas forcément dans le milieu du livre en ont pas forcément conscience. Et c'est pour ça que je pense que cet article il est intéressant. Mm-hmm. C'est qu'en fait, en obtenant du coup le capital de Hachette, enfin en l'achetant, Bolloré, ça veut dire qu'il s'offre en fait toute la chaîne du livre intégralement. C'est-à-dire que vont lui appartenir des maisons d'édition. Vont lui appartenir un système de distribution qui est important de rappeler que, en fait, dans la chaîne du livre, que ce soit pour les éditeurs, éditrices indépendantes ou pas, en fait, c'est un peu un maillon primordial dans le sens où c'est ce qui va nous permettre de justement faire arriver nos livres dans les librairies. Mmh. Donc, en fait, Hachette, c'est aussi un distributeur. Et en fait, ça va aussi avec les relais, par exemple, des gares.
Oui.
Qui sont donc des milliers en France. Mmh. Et donc, en fait, ça veut dire que Bolloré, il a la main mise sur un énorme pourcentage juste de l'édition française, ce qui va de la production du livre jusqu'à la distribution, jusqu'à la vente du livre. Donc, en fait, il a tous les
relais.
Il a tous les maillons de la chaîne.
Mmh, tout à fait.
Et donc, c'est un peu en ça que c'est... que ça inquiète. Mmh. Parce que, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais plus, lors d'une table ronde autour du livre, il y avait un des éditeurs qui disait, je crois que c'était Florent Massot, qui disait que ses livres étaient plus distribués dans les relais, depuis un certain temps. Donc, en fait, il y a des choix qui sont faits et il y a des maisons d'édition qui perdent des
marchés.
Qui perdent des marchés parce qu'en fait, elles sont peut-être trop engagées pour être distribuées dans certains lieux qui appartiennent maintenant à des multinationales.
Tout à fait. Alors, Hachette, c'est le 6e distributeur mondial. Le 6e empire mondial. Donc, en rachetant Hachette, il devient le 6e empire mondial.
Et puis, c'est aussi une une marque qui dépasse les frontières françaises, parce que il y a aussi des points de vente et des maisons d'édition aux États-Unis, ailleurs en Europe, etc. Donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser.
Voilà. Donc, la méthode de Bolloré est décryptée dans ces 2 chapitres consacrés à Hachette. Et On dit bien même que sa stratégie d'expansion est redoutable. Elle est absolument redoutable parce qu'il met un pied dans les entreprises. Quand on le laisse faire, il s'installe définitivement. Quand il fait peur, on doit lui donner une plus-value énorme pour qu'il parte de l'entreprise. Ça a toujours été ça, ses coûts en bourse et ses acquisitions agressives. C'est un prédateur. Il n'y a pas d'autre définition. J'ai tout bon, Arnaud ?
Oui, le milieu de l'édition, c'est un milieu qu'on enjolive souvent en pensant qu'il fonctionne avec des bons sentiments et qui fonctionnerait presque en dehors du capitalisme.
Pas du tout.
Il est au cœur du capitalisme. C'est le livre. C'est une marchandise, certainement particulière, mais c'est une marchandise. Et c'est vrai que Hachette et d'autres groupes, comme le groupe Kretinsky ou d'autres...
Editis.
Et puis, à leur manière, dans la littérature générale, des gens comme Madrigal veulent une hégémonie. Alors, qui est peut-être que la particularité de Bolloré, c'est cette hégémonie, en plus d'être culturelle, il y a cette volonté idéologique aussi. En fait, ce qu'on découvre avec Hachette, avec Bolloré, j'ai l'impression qu'on découvre que le monde du livre n'est pas un milieu très sain et n'est pas un milieu collaboratif. Finalement, ça permet peut-être aussi de mettre les points sur les i et de se dire comment on va faire autrement.
Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien dans le chapitre 4, c'est que, de Florent Massot, justement, il présente la figure d'autres qui sont comme Bolloré. Je parle à Bernard Arnault ou Daniel Kretinsky. Comment le capitalisme flingue l'édition. Ça, c'est un article très bien très analytique. Et il cite Roberto Saviano, qui est on ne peut plus clair en disant la phrase exacte de Saviano est page 78. Et il revient sur la phrase célèbre de Lénine, ils nous vendront même la corde pour les pendre. Voilà, donc page 84. Donc, Massot propose des solutions. Et donc, c'est ça qui est formidable dans Déborder Bolloré, c'est qu'il y a le constat, mais il y a aussi les solutions. Et en ce sens, vous avez vraiment débordé Bolloré. Ça, il n'y a pas de problème.
Après, je pense que la solution, je ne sais pas s'il y en a une qui soit efficace, mais je pense qu'en tout cas, le processus de création du livre nous a montré que une des solutions, c'était aussi de se rencontrer avec d'autres éditeuristes et d'autres actrices du livre, de se rencontrer pour de vrai et de faire des projets en commun. Et que ça, c'était une solution qui pouvait marcher assez rapidement, parce qu'on a vu ce livre, il a vu le jour en 6 mois, ce qui est quasiment impossible en temps normal, en étant seul dans nos maisons d'édition respectives, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une des solutions principales que j'ai trouvées dans ce projet, en tout cas.
Arnaud ?
Moi, je suis d'accord. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai... Je suis d'accord avec Clara. C'est vraiment ce qui nous a, en tout cas, au cœur du réacteur, quand on s'est tous réunis, à la fin, on était quand même peut-être une trentaine à interagir ensemble, et d'avoir chacun pu donner son savoir... Partager son savoir aux autres pour aller vite, et ça, c'est vraiment une réussite, et ça donnerait presque envie de continuer avec un collectif mouvant à faire des livres comme ça. Se dire que. Enfin voilà, c'est vraiment une réussite.
De toute façon, la campagne des armées Bolloré, elle continue. Et elle a du succès. Je veux dire, elle a été bien relayée dans la presse. Les images de la flottille entourant... pourquoi on est allé entourer l'île de Bolloré ? C'est parce qu'il en a confié la gestion et la surveillance à quelqu'un qui a géré le GUD, ce qui était insupportable pour beaucoup de Bretons et beaucoup de membres de la société civile. Donc, il y a quand même une centaine de gens qui se sont entassés dans des bateaux pour aller sur cette île. La préfecture maritime nous a interdit cette flottille de partir, mais il y a quand même un certain, la plus majeure partie a réussi à partir. J'étais sur le pont pour la voir partir, donc c'était spectaculaire. Et vraiment, il y a un avant et un après cette campagne. C'est un travail de fourmi qui a débuté, et votre livre et votre projet s'inscrit vraiment dedans. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ?
Moi, je pense qu'en effet, c'est assez jouissif de voir ce genre d'initiative, que ce soit la flottille ou le livre qui sort, etc. Après, je pense que il faut rester mesuré dans les effets que ça peut avoir pour Bolloré lui-même ou pour son...
Se faire envahir par des...
Oui, mais enfin, faut quand même remettre les choses dans le contexte, et que c'est une île, c'est quand même sa résidence secondaire. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas de loi qui interdit d'accoster sur les berges, en tout cas en Bretagne. Ce qui fait qu'en effet, les personnes avaient le droit d'aborder l'île. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup inquiété par ce genre d'initiative. Je pense que ça ne lui donne pas bonne presse, mais en même temps, ça peut aussi être récupéré par ses médias à lui, justement, puisqu'il y a quand même CNews et tout ce genre de chaînes qui lui appartiennent, et tourné en ridicule, comme ils l'ont fait, par exemple, récemment, avec la flottille qui est partie pour Gaza. Ouais. Donc, je suis un peu partagée sur ça, parce que je ne sais pas, en fait, à quel point ça peut jouer de son côté, voilà.
Alors, ce qui en est des médias et de la récupération, on le verra dans la deuxième partie, avec la partie africaine des racines de l'Empire Bolloré. De la rage dedans. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Clara et Arnaud pour déborder Bolloré. Clara, je voudrais qu'on revienne sur le texte que tu as écrit dans Déborder Bolloré, qui a pour titre Clara Pacotte, lesbienne à la page.
Donc moi j'ai écrit un texte pour aborder l'édition depuis mon point de vue, à la fois d'éditrice, mais aussi d'autrice. Mmh. C'était aussi pour apporter dans le recueil un point de vue sur la langue en elle-même, parce que la grande liberté que permet l'édition indépendante, c'est aussi de pouvoir suivre l'évolution du langage telle qu'elle est pratiquée au moment même où on publie, ce qui n'est pas forcément le cas dans des grosses maisons d'édition qui vont avoir plutôt tendance à respecter des normes, on va dire, assez classiques. Mmh. Et donc, mon texte parle de comment, en fait, en publiant depuis la marge, moi, de mon expérience de lesbienne aussi, d'avoir envie de donner accès à des récits qui ne soient pas des récits majoritaires. Mmh. Et ce qui va souvent avec des genres d'écriture et des styles qui sont un peu hybrides. En tout cas, les textes que je décide de publier, c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas des genres très compartimentés entre la poésie, la fiction, l'essai, etc. Et donc, comme ça, en proposant une sorte d'hybridation des genres, on peut aussi réfléchir à la langue française en elle-même et à ce qu'elle permet de proposer en dehors des codes de l'Académie française qui sont très rigides, comme on le sait. notamment pour les questions d'écriture inclusive, etc. Mmh. Voilà, pour présenter rapidement le texte.
Alors, il est page 150... Tu as présenté les buts, page 151, et tu utilises le terme de colporteur.
Colporteuse,
oui, voilà, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu peux le préciser?
En fait, c'est historiquement, les colporteuses, c'est quand même une... Enfin, les colporteurs et colporteuses, c'est une figure qui est très intéressante, je trouve, pour la question, justement, de l'autonomie et de la diffusion de l'édition, puisque c'était des personnes qui étaient en fait itinérantes et qui diffusaient des éditions, enfin des livres, dans les milieux qui n'avaient pas forcément accès, donc en dehors de la capitale, puisqu'à l'époque, la production de livres était déjà assez concentrée au XVIIIe siècle. Mmh. Et en fait, ces personnes-là étaient marginales de par leur itinérance, mais surtout, en fait, parce que souvent, c'était des gens qui colportaient des écrits qui étaient censurés par le roi, par les instances royales, on va dire. Mmh. Et donc, pour moi, c'est une figure qui est intéressante à réactualiser parce que j'ai l'impression qu'en fait, face au milieu de l'édition tel qu'il est décrit dans le livre et tel qu'on en parle depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous, on continue de diffuser des textes qui ne vont pas forcément pouvoir passer les comités de lecture de certaines maisons d'édition qui sont ancrées dans un projet d'extrême droite. Oui. Clairement pas même.
C'est clair.
Et donc, ces colporteuses et colportrices, en fait, ce sont des personnes qui sont finalement un peu la base de cette idée de vouloir donner accès au plus grand nombre à des textes qui remettent en question l'état des choses.
Et surtout l'autorité.
Voilà. Et en fait, c'était des gens qui étaient quand même souvent arrêtés par la police, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais parce qu'en fait, c'était quasiment que des livres pirates, quoi. Mm-hmm. C'était des réimpressions, des textes coupés, des morceaux de textes censurés, etc. Mm. Voilà. Donc, c'était une figure que je trouvais intéressante.
Parfait. Alors, donc, Clara. Donc, lesbienne à la page. Arnaud, par contre, donc toi, tu as écrit ton article avec Julie Varcon. Mmh. Il a pour titre « L'odeur de l'encre, l'imprimerie, mirage des techniques, réalité des concentrations ». Tout un programme.
Oui, tout un programme. Mmh. Déjà, si je peux faire un peu de publicité à Clara, parce que moi, j'ai découvert ta maison d'édition avant qu'on se rencontre, grâce à ma collègue Jeanne, que je salue. Je vous recommande donc chez Rag Édition, War Foods, chronique d'une caissière en chien.
Oui, c'est très drôle.
Voilà, c'est le petit. L'instant publicité. Oui, moi je suis arrivé dans le projet par la maison d'édition, La Grange Batelière, mm-hmm. que j'anime aussi d'une manière artisanale avec ma compagne Julie. Mais très vite, je savais pas trop ce que j'avais raconté de plus ou de plus pertinent que certains de mes collègues du collectif sur ma maison d'édition. Et, mais le fait est que j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'imprimerie et que c'est quelque chose qui me, voilà, qui me taraude encore beaucoup. Et je me suis dit, bah, quand on en a parlé avec, avec Théo, par exemple, au départ, je lui dis oui, c'est bien beau, l'édition, mais on ne parle jamais de l'imprimerie. Et donc, il m'a dit, bah, voilà, t'as qu'à t'y coller, tu raconteras. Donc, le principe de ce texte, c'est vrai que le titre est un peu ambitieux, et d'ailleurs, je m'y suis un peu cogné. L'idée, c'était de raconter en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, déjà, il y a une sorte de fantasme sur l'imprimerie, sur l'odeur de l'encre. Je vois souvent les gens qui disent, ah, ça sent bon. Or, je ne vois plus trop comment ça peut sentir, puisque les techniques d'impression maintenant, c'est beaucoup du jet d'encre, donc il y a beaucoup d'eau dans l'encre, donc il n'y a plus beaucoup d'odeur. Et l'idée, c'était de dire que toute cette nouvelle technique qui était arrivée dans l'imprimerie à l'orée des années 2000, elles avaient détruit aussi un métier ancestral. Et ce métier ancestral, il y a évidemment cette question de métier, dont la grande figure tutélaire, c'est l'ouvrier typographe, mais il y avait de multiples métiers dans les ateliers. Elle comportait ce qui est essentiel pour moi, c'est un milieu syndicaliste d'ouvriers révolutionnaires.
Oui.
Et je trouve que c'est des choses qu'on oublie beaucoup dans notre question de résistance. C'est la question de l'offensive. En fait, on résiste, mais on n'est jamais très offensif. Et ce que je voulais essayer d'écrire dans ce texte, c'est de dire, ben, la technique, les concentrations dans l'imprimerie, elles ont détruit une digue, elles ont détruit un milieu qui était un milieu offensif pour un autre monde.
D'ailleurs, elles suivent la concentration dans l'édition.
D'une certaine manière, oui. Et Hachette a été longtemps très actif dans des imprimeries. Mm-hmm. Hachette, c'est l'inventeur du... Une brève histoire, c'est l'inventeur du livre de poche.
Voilà.
Et à la fois du livre populaire. C'est ça aussi un peu l'ambivalence de l'affaire. C'est l'inventeur du livre de poche pour nourrir le livre de poche, et déjà avant, pour nourrir les manuels scolaires, dont il était, comme aujourd'hui, un des acteurs principaux. Il a eu besoin d'investir dans des imprimeries. Et jusque dans les années 2000 aussi, il a été un grand acteur de l'imprimerie, concentré des imprimeries
pour
leur donner des économies et puis leur donner une spécificité sur sa production.
Tu montres bien ce qui s'est passé pour l'imprimerie Flock London.
Ouais, il y a l'imprimerie Flock London. Il y a aussi l'imprimerie Flock. Je vais essayer de faire deux choses rapidement. C'est qu'il y a les imprimeries qui appartenaient à Hachette, en fait, ils ont à un moment, ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin d'investir dans ces imprimeries, donc ils ont lâché les capitaux de l'imprimerie et ils ont passé des contrats commerciaux. Dire, ben, nous, vous débrouillez pour... C'est devenu des sous-traitants.
Voilà.
Et avec des accords commerciaux qui leur permettent de garantir leur prix bas et garantir une mainmise sans avoir à gérer le personnel et tous les frais.
Ça, c'est typique du capitalisme. Ça,
voilà.
Mais aussi, il y avait la question qu'on avait abordée l'autre jour quand on a fait la présentation au Merle Mocker sur cette ambivalence où, en fait, en effet, c'est très concentré et puis ça soulève les problèmes que tu dis. Mais en fait, il y avait aussi l'idée que ça permettait à des éditeurs et des éditrices beaucoup plus petits d'exister parce que il y a des techniques moins chères aujourd'hui qui n'étaient pas accessibles, ne serait-ce qu'il y a 20 ans pour...
L'off-print
des... Ben, la possibilité pour des structures aussi petites que les nôtres d'avoir accès en fait à l'imprimerie, tout simplement, ce qui était qui soit un coût à peu près viable pour nous. Mm-hmm. Donc c'est très oui, ça pose la question de, enfin, c'est à deux versants, quoi.
C'est à double tranchant.
Ouais. Oui, la technique, c'était là. Tu le fais bien de le rappeler. La technique, elle est à la fois elle a détruit un métier, mais elle a donné accès, en réduisant des coûts fixes, en facilitant, elle a donné accès à des éditeurs indépendants qui n'auraient jamais pu avant accéder à des impressions à si bas prix.
Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ton article, c'est que tu fais référence à Jean Métron. Alors, la Fédération anarchiste, par certains de ses groupes, a organisé mercredi dernier une projection avec l'excellent documentaire de Michel Rollin sur le Métron, justement, à Publico.
Ok.
Voilà.
Le Métron, c'est le dictionnaire du mouvement ouvrier.
Ah oui.
Ouais. C'est ce qu'on appelle un peu.
Le Métron.
Robert, ils appellent ça.
Le Métron. Ah, le documentaire est excellent. Michel Rollin fait d'excellents documentaires. Elle est venue à Publico et c'est dommage qu'on ne l'invite pas plus souvent dans les librairies ou dans les cinémas parce qu'elle fait un excellent travail. Et elle a fait notamment le documentaire sur Radio Libertaire, que je salue. Voilà. Donc, et tu rappelles,
Ah oui, tu voulais que je parle de Floc London rapidement pour terminer, non ?
Non, tu rappelles que l'entrepôt Hachette est à côté de celui d'Amazon.
Oui.
J'ai découvert ça en faisant des recherches.
Ouais, ouais.
C'est le pied de l'âne, vraiment. On se rend compte que tout bénéficie à quelques multinationales et à quelques milliardaires, même dans l'imprimerie.
Oui.
Voilà, bien. Donc maintenant qu'on a évoqué vos deux textes dans Débordés Bolloré, nous allons essayer de venir sur deux textes en particulier. Celui de M. Pecker sur les racines coloniales de Bolloré. Page
93,
voilà. Chapitre 5. Bolloré, le laboratoire africain, d'Antoine Pecker, page 93. Alors, il dit ceci. Sans ses activités africaines, Vincent Bolloré n'aurait jamais pu mener en France son projet politique. Et c'est vrai. Parce qu'en Afrique, il détenait 22 concessions portuaires et 66 ports secs. Et en 2022, il a fait une plus-value de 3,4 millions d'euros dans ses activités.
Milliards même.
Milliards d'euros, pardon. Je suis débordée par les chiffres, que voulez-vous. Donc l'Afrique a été sa première étape de conquête hégémonique culturelle, via un outil, pas n'importe lequel, Canal+. Arnaud ?
Eh bien, ce qu'on découvre dans l'article d'Antoine Pecker, c'est vraiment le rôle de Bolloré dans la mainmise culturelle et à tous les niveaux en Afrique. Donc il y a effectivement Canal+, qui est ce qu'il écrit, la première chaîne payante en Afrique subsaharienne
francophone. Et il fait une OPA sur Multichoice pour avoir le côté lusophone et anglophone.
D'accord.
Il a fait une OPA. Parce que ce serait que 35% des foyers anglophones et lusophones. Donc c'est quelque chose qu'on surveille, ceux qui sont contre Bolloré.
Et en fait, il travaille aussi énormément dans les milieux culturels, en donnant une sorte de mécénat, mais qui n'est pas un mécénat, je ne sais pas si le mécénat est parfois gratuit, mais...
Non, rien n'est gratuit chez Bolloré.
Ce mécénat permet aussi des accointances avec les pouvoirs africains et
dictatoriaux.
Les pouvoirs autoritaires africains et de travailler que cette mainmise culturelle aide les États à garder leur pouvoir autoritaire et permette à Bolloré de continuer à faire des affaires.
C'est du capitalisme de connivence, comme on l'appelle. Donc, par contre, il y a une résistance politique de la population, parce que Bolloré, dans certains pays, entretient le sentiment anti-français. C'est pour ça qu'il s'est rapproché récemment des intérêts russes, qu'il publie l'animatrice principale de Russia Today et qu'il a publié son livre contre la soi-disant censure que lui auraient fait subir ceux qui ont fermé Russia Today juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc elle est publiée par Bolloré.
Ok.
Voilà.
Après moi je pense que ce qui est intéressant dans le texte c'est aussi que il explique en fait comment c'est une sorte de laboratoire
pour
ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe par rapport à sa façon d'agir en fait. Et ça, comme tu disais que c'était un prédateur tout à l'heure, et je pense que ce texte il est intéressant pour comprendre comment ça ça se passe aujourd'hui en Afrique, mais comment ça s'est, développé, en fait, sur plusieurs décennies. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui arriver en France, et je pense qu'en ça, ce texte, il est assez clair.
Il a testé sur le terrain. Voilà. Il a testé en Afrique.
C'est qu'on comprend qu'en fait, toutes les méthodes qui sont appliquées aujourd'hui dans l'édition ou donc plus largement dans les médias français, c'est des techniques qui sont déjà mises à l'œuvre et qui ont déjà fonctionné très très bien.
Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'elles ne fonctionnent pas en Europe. Donc, le chercheur Hamzat Boukhari Yabara, il le dit bien, il dit que Bolloré va à la conquête des esprits, il construit une espèce de soft power et il se positionne sur l'avenir avec les enfants. Il ne fait pas que coloniser les adultes, il colonise aussi l'avenir. Donc c'est en ça qu'il est dangereux, c'est une bataille des idées et ses méthodes sont redoutables. Donc il fait une OPA sur le goût des Africains, qu'il a réussi, et il va faire la même chose en Europe.
Ben, l'idée générale de livre, c'était de réunir justement des paroles africaines, ou en tout cas de prendre le cas d'Afrique pour lier ce recueil En fait, l'idée, c'était de pas en faire une question franco-française,
non,
ou voilà,
tout
c'était
à fait.
De dire.
C'est une question universelle. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que les deux entretiens qui suivent, celui de Pecker avec Pascal Obolo et avec Monsieur Yakari,
Hamzat Boukhari Yabara,
sont parfaits. C'est une parole africaine qui explique bien le ressenti des populations. Et comment ça s'est passé et d'ailleurs, Pascal Obolo, c'est elle qui parle, c'est la seule qui parle de travail de fourmi en tant que telle dans son entretien. Alors, elle dit bien aussi, c'est Monsieur Boukhari qui dit cette phrase que j'ai trouvée très belle. Il faut savoir choisir sa mort. On ne veut pas mourir sous la botte de Bolloré. Voilà. Parce qu'on va mourir de toute façon. Donc autant choisir sa mort.
C'est un peu glauque. parce que il y a quand même une phrase dans son entretien qui est quand même un petit peu plus
optimiste,
où il dit qu'il y a de quoi créer des espaces de respiration intellectuelle, artistique et créatif. Mm-hmm. Et je pense que c'est un peu le but étant pas de toute façon de faire tomber Bolloré à notre niveau, je pense que c'est pas possible, mais l'idée est de conserver et de continuer de créer des espaces où on peut agir pas forcément justement que localement, mais aussi de travailler avec les diasporas de pays francophones et de voir aussi comment ça se passe dans d'autres pays, parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, la langue parfois fait qu'on est assez isolé, même des pays qui sont limitrophes avec la France. On ne sait pas forcément comment ça fonctionne en Espagne ou en Italie, ou enfin en Belgique un peu plus, parce qu'on parle la même langue, mais... Je pense que ça manque aussi d'avoir des relations avec les pays d'Afrique qui, en fait, eux, sont déjà vécu de plein fouet ce qui est en train de se passer. Et du coup, on peut peut-être aussi développer des méthodes de résistance qui peuvent nous correspondre aussi sur le territoire français, quoi.
Et d'ailleurs, il le dit bien. Si on chasse Bolloré, d'autres arriveront. Parce que c'est le principe même du capitalisme. Mais si on chasse Bolloré, on saura chasser ceux qui viendront lui succéder. Page 116. Excellente conclusion de ce chapitre sur l'Afrique de Bolloré. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Arnaud ?
Non, parce que ce que Clara, c'est de prendre exemple. En fait, c'est sûr que si on veut être à égal avec Bolloré ou les maisons d'édition qui détient, on a perdu d'avance. Mais ce qu'il faut, c'est nous ménager des espaces de liberté et de s'organiser pour continuer à survivre et à produire des livres qui nous sont chers dans ce monde qui est de plus en plus concentré.
Oui.
Mais je pense que ce livre, enfin en tout cas le recueil qu'on a fait, il est un bon exemple de de ça, c'est-à-dire que c'est un ça a fini par être un espace de réflexion en dehors même du livre en tant qu'objet. Mm-hmm. Et c'est ça qui est important, je trouve.
Et c'est très réussi.
Merci.
Non, je dis ce que je pense, et je pense ce que je dis. C'est pour ça que je suis redoutable. Et on me redoute à Roubaix. Tout le monde ne le suit pas, hein, aujourd'hui. Bien. Alors, nous allons revenir sur le dernier texte qu'on peut présenter, parce qu'il y a plusieurs textes, et pour donner envie aux auditeurs d'aller à Publico acheter Débordés Bolloré, c'est celui de Karine Soline Espiniera, qui est une sociologue des médias, une personne trans, et qui explique ceci. Il y a une double peine pour les personnes trans, parce qu'elles sont maltraitées dans l'espace public et dans les médias. Donc, elle explique tout son travail de travail sur les médias, justement, par rapport à cette antienne. Et elle dit, même à un moment donné, dans son texte, que tout le monde avait le droit de disserter sur la question des trans, sauf les trans eux-mêmes. Et elle dit surtout que les médias Bolloré ont bien préparé le terrain, sous-entendu, contre les trans.
Clara ? En fait, sa perspective, c'est de dire que en fait, les médias de Bolloré, en jouant sur le scandale et sur le débat à tout prix, ont en fait fini par mettre en débat des questions qui ne devraient pas l'être, c'est-à-dire l'existence même des personnes trans ou leur légitimité à apparaître dans l'espace public, etc., sous couvert de vouloir faire des émissions un peu scandaleuses, etc. En fait, les personnes trans se retrouvent à être à incarner non pas ce qu'elles sont elles-mêmes personnellement, mais toute une communauté qui, du coup, se retrouve donnée en pâture à certains et certaines animatrices de télé, notamment parce qu'elles parlent surtout de Hanouna.
N'en touche pas à mon poste.
Voilà, hein. Par exemple, où en fait, elle dit, mais y a des questions qui ne sont pas des débats, c'est-à-dire on ne va pas débattre de l'existence de quelqu'un. Et en fait, je trouve que du coup, c'est assez clair dans son texte. C'est-à-dire que les médias de Bolloré préparent le terrain à des offensives de lois anti-trans, etc. Parce qu'en fait, le débat, il existe déjà dans l'espace médiatique, avant même d'exister dans l'espace légal, que ce soit des commissions de l'Assemblée, etc. Donc en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle cette expression, mais une fois que la question elle a été ouverte dans l'espace médiatique, il existe la possibilité de débattre de ça, alors que c'est des questions qui avant n'étaient pas possibles d'être mises comme ça. Alors, en plus, sous le regard de personnes où en fait l'opinion de personnes qui ne sont pas concernées par le sujet, parce que c'est quand même ça le problème qu'elle soulève, c'est que il y a une personne trans qui va être invitée sur un plateau, et puis tout le monde va débattre de la légitimité de cette personne à exister, alors que personne ne connaît vraiment les problématiques que ça soulève, et tous les avis sont mis au même niveau, en fait. Donc en fait, ça permet à des gens qui n'y connaissent rien de donner leur opinion et de penser que leur opinion est valide sur ces questions-là, alors que c'est pas le cas.
Et de toute façon, elle dit bien que la transidentité est un sujet politique. Elle le dit page 268. Et elle dit, il ne faut pas non plus céder à la menace, car c'est renoncer à soi-même. Ça, je trouve ça très, très pertinent.
Ben, c'est ces mots.
Voilà.
Je pense que ça parle. Les mots parlent d'eux-mêmes.
Parle d'eux-mêmes. Ce passage m'a beaucoup émue, parce que j'ai beaucoup de personnes trans dans mon entourage. Et vraiment, je leur ai recommandé d'acheter le livre et surtout de se référer à la bibliographie qu'elle donne à la fin de son entretien, page 275 à 276, parce qu'elle part du principe qu'un média, c'est une identité culturelle. Et donc, elle a donné toute une liste de sites, de livres qu'il faut absolument avoir sous la main pour pouvoir se faire une identité et pour se faire une idée de la question politique qu'est la transidentité.
Oui, et puis je pense que c'est important de rappeler que les personnes trans représentent quand même une communauté qui est attaquée en premier lieu sur beaucoup de questions. Et c'est ce qu'elle explique aussi dans son article, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des offensives contre les personnes trans, c'est pour préparer les offensives contre
les femmes.
Les femmes, plus largement, mais aussi les communautés immigrées, etc. Enfin, en fait, c'est pas une seule communauté qui va être attaquée, c'est juste toutes. Que celle-là, elle est historiquement mise en... perpétuellement mise en avant dans les médias comme une cible, et qu'en fait elle dit attention parce que ça commence par nous et puis après ça prépare le terrain pour le reste, quoi.
Tout à fait.
Et de toute façon, Bolloré, je pense que même si on dit qu'on veut déborder la figure de Vincent Bolloré en tant que personne, c'est quand même quelqu'un qui assume d'être d'extrême droite et qui annonce avoir un projet de combat civilisationnel chrétien, conservateur, plus que conservateur même.
D'ailleurs, la BD, l'introduction à Débordé Bolloré, est excellente. Elle est savoureuse. J'ai vraiment apprécié. Elle est vraiment savoureuse. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de notre entretien. Je vais vous demander, Clara, Arnaud, une conclusion éventuelle sur le mot qui va faire qu'ils vont foncer vers la librairie la plus proche et chercher Débordé Bolloré. Le bon mot.
Eh bien, peut-être que je peux lire le dernier paragraphe de la note de production du recueil.
Vas-y, Clara.
Qu'il s'agisse d'un projet pour soutenir la cause palestinienne, à l'instar de la Pastèque, ou de celui-ci qui met en lumière les dynamiques de concentration par de grands groupes éditoriaux, ce qu'il faut lire en filigrane, c'est la nécessité d'imaginer de nouvelles formes d'organisation entre nos structures. Ces dernières passent par la mise en commun de nos compétences d'éditoriste, de relectoriste, de graphiste, de typographe, traductrice et développeureuse, et la redéfinition de nos outils pour en renforcer la dimension collaborative. Tout cela dans le but d'être plus opérante et rejoindre, depuis nos positions d'éditrice, celles et ceux qui luttent contre le libéralisme autoritaire croissant.
Merci Clara. Merci Arnaud.
Merci.
Alors, je rappelle le titre du livre, Débordé Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, et qui est vendu la modique somme de 12 euros.
Ouais, pour vraiment énormément de pages.
Mais oui, énormément d'informations. 12 euros, c'est vraiment donné.
Et aussi, il faut le dire, tout est accessible gratuitement en ligne sur le site de Débordé Bolloré. Toutes les participations et celles à venir, puisque le projet, c'est quand même de faire grandir la somme de textes.
Voilà. Bien. Alors, chers auditeurs de La Rage de Dents, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous dis faites attention à vous et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la dernière émission avant les vacances. Merci à Ken Dong pour la technique. Merci à Clara, merci à Arnaud et à bientôt.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nur. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me piquer futur, la gloire pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maribin, je t'ai blousé, c'est mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, l'angoisse ou de la preuve.
Mes branches ont cessé de grandir. Des oiseaux se sont installés dans la buée du souvenir. Je voudrais tout recommencer. Compteur à zéro, repartir. Pouvoir tout refaire pousser.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Les filles les plus belles ont besoin de temps pour bien arranger ce fardeau brillant qui semble échapper à la vie courante. Il faut de la soie, du cuir et de l'or pour que la vie puisse habiller leur corps et qu'elle y rayonne, narquoise et troublante. On se garde un peu trop des filles qui sont très belles, qui veulent des marmots, des fleurs, de la vaisselle, croire à des mots nouveaux, rire à des vies nouvelles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles.